T'adores l'aventure ? Lance-toi. T'auras bientôt 40 ans. On va pas te proposer ça tous les jours.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Vous la connaissez peut-être en tant que vice-championne olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux d'Athènes en 2004. Ou alors, vous l'avez découverte plus récemment, lorsqu'elle a accepté et relevé le défi de l'athlète handisport Théo Curin de traverser le lac Titicaca en totale autonomie. Dans les deux cas, la première chose qui foudroie quand on voit ou qu'on rencontre Malia Metella, c'est son sourire qui vous éblouit de bienveillance et vous réconforte instantanément, une force douce comme il est rare d'en rencontrer. Malia a dédié sa vie à la natation jusqu'à ses 27 ans, où elle a brillé par son talent, puis elle n'a quasiment jamais remis les pieds dans l'eau les 10 années qui ont suivi, jusqu'au défi Titicaca et ses 122 km de nage. Malia nous explique dans cet épisode cette folle épopée et surtout pourquoi elle a décidé, après plus de 10 ans sans nager, de se rejeter à l'eau et de tout ce que ça a provoqué en elle. C'est aussi l'histoire d'une après-carrière, pas évidente à mettre en place, même après une médaille olympique. Mais c'est surtout le récit passionnant d'une femme engagée et résolument tournée vers les autres. Salut Malia.
Salut.
Je suis contente d'être avec toi et d'échanger aujourd'hui sur plein de sujets.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet directement, si ça te va.
Oui, on plonge.
On plonge, c'est vraiment le, c'est vraiment le terme. Il y a quelques semaines maintenant, il commence à avoir un petit peu de temps maintenant, tu t'es lancée dans l'aventure Titicaca. Alors là, je dis il y a quelques semaines, c'était même il y a plus longtemps que ça, parce
oui.
que finalement...
Quelques mois.
Il y a quelques mois, et l'idée de ce projet-là, ça date d'il y a plus d'un an
oui,
maintenant.
Oui, exact.
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu rapidement? Alors, c'est vrai que les gens en ont beaucoup entendu parler, il y a eu une grosse couverture médiatique.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter juste rapidement, nous redétailler la genèse de ce projet-là et après nous dire pourquoi finalement tu t'es lancée là-dedans. J'imagine que c'est une question qu'on t'a beaucoup posée.
Oui, pourquoi j'ai accepté tes femmes ou quoi?
Bah forcément, on se pose quand même la question.
En fait, la genèse vient de Théo Curin, suite à des problèmes de classification pour les Jeux paralympiques. Ouais. Il se retrouvait à nager avec des nageurs qui avaient des bras. Et lui, il en a pas. Il est amputé des quatre membres, des deux bras et des deux jambes. Donc, forcément, en natation, dès que t'as un bras ou deux bras, alors qu'il y en a qui en a pas, bah, forcément, t'es avantage. Et donc, il a dit, c'est bon, je mets une croix sur Tokyo et je veux créer mes propres défis. Et j'aurai mes propres règles. Et donc, il a réfléchi, ça a commencé un peu avant le premier confinement, il a réfléchi avec son agent qui est Anne, qui est chargée de tout le projet Défi Titicaca. Et en fait, il aimait bien Titicaca, c'est le truc qui le faisait bien rigoler. Le nom le faisait rire, il adore
le nom
ça.
Potache.
Voilà. Et il s'est dit, pourquoi pas ? Personne ne l'a fait. Et se lancer dans un défi avec, on va dire, des points qui sont quand même de l'extrême.
Ouais.
Que ce soit l'altitude, 3800 mètres d'altitude, dans l'eau à 10 degrés, et faire tracter, en fait, un radeau
ouais.
de 500 kilos.
Ouais.
Parce qu'il faut être en autonomie. Et donc, il a dit, on va partir sur ça. On va créer vraiment le projet. Et il faut trouver des personnes pour m'accompagner. Et là, il a réfléchi à une nageuse soit qui était en fin de carrière. Ou qui avait déjà arrêté. Et une autre personne, c'était vraiment le profil d'aventurier.
Mmh.
Et donc moi, je suis arrivée, en fait, c'est fin du premier confinement. C'est Anne qui m'appelle. Et donc, on s'était rencontrés... 3 ou 4 mois avant, pour la première fois, on avait échangé et tout. Elle m'a expliqué, qu'elle s'occupait de Théo. Donc, j'ai fait, beaucoup de personnes me parlaient de toi. Mais je t'avais jamais rencontré. Et ensuite, elle m'appelait 3 mois plus tard, elle me dit, mais Malia, ça va? Je fais, oui, très bien.
Qu'est-ce que tu vas me demander?
Exactement, c'est la bonne question. Je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce qu'elle va me demander? Elle m'a dit, tu continues à nager? Je fais, non. Pas du tout. Alors là, vraiment pas. Elle me fait, tu fais du sport? Je fais, oui, je fais du sport pour ma santé. Ouais. Voilà. Il me fait, mais ça t'intéresserait pas de nager beaucoup? Alors, c'est quoi nager beaucoup, Anne? Parce que c'est une demi-heure, 45 minutes, une heure, deux heures, trois heures. Elle me fait 122 kilomètres. J'ai fait 122 kilomètres.
Pardon?
C'est beaucoup, 122 kilomètres quand même. Elle me fait, oui, voilà, je t'explique. Voilà, Théo, suite au problème de classification, veut lancer son propre défi. Elle voulait pas rentrer dans les détails. Et puis, je dis, mais Anne, il faut m'expliquer parce que je vais pas comprendre le projet et je pourrais pas te donner de réponse si j'en sais pas plus.
Bien sûr.
Et donc, forcément, il fallait tirer les vers du nez et elle m'a donné un peu le projet. Et j'ai fait, bon, ok, alors, est-ce que je peux réfléchir avant de te donner une réponse? Elle me fait, oui, pas de souci, prends ton temps, tu me donnes une réponse plus tard, une semaine, ça va. Et en fait, j'appelle mon entraîneur, Stéphane Leca, qui j'ai été en contact pendant toute ma carrière et mon après-carrière. Et j'ai dit, Stéphane, voilà, il y a Anne, l'agent Théo m'a appelé et elle m'a proposé ça. Il me fait, ah, mais c'est génial et tout. Mais Malia, tu sais qu'il faut nager. Il faut nager beaucoup. Et j'ai dit, oui, je sais, j'ai bien compris. Mais ça, tu penses que c'est possible et tout? Il fait, oui, mais ça va être génial. Je dis, si je t'appelle, c'est parce que je veux que ce soit toi mon coach. Il me fait, ok, il n'y a pas de souci. Je lui dis, mais pourquoi pas aussi que ce soit le coach de l'équipe? Il me fait, bon, voilà, demande à Anne. Et après, on en parle. Et en fait, tout de suite après, j'ai appelé Anne. En fait, en 1h30 après son appel à Anne, je lui ai donné ma réponse. Je lui ai dit, bon, Anne, c'est bon, c'est OK. Elle fait, quoi? Je fais, oui, c'est OK. On appelle Théo, donc on a fait un call à 3. Et Théo était super ravi, il criait, il fait, c'est génial et tout. Donc, voilà, c'est parti de là. Et après, j'ai rencontré, 2 mois après, j'ai rencontré Mathieu. En fait, Théo, je l'avais rencontré qu'une seule fois dans la vie.
J'allais te demander si tu le connaissais déjà
ou
pas.
Non, pas beaucoup. On s'était croisés dans des événements, mais c'est bonjour, ça va et
oui,
tout.
Oui.
Voilà. C'était, voilà.
Les mondanités.
Voilà. En tant que sportive, voilà, quand tu connais pas. Et là, c'était les moments où on a commencé en septembre 2020. Ça a été le début, tous les trois, on a commencé à se préparer.
Wow. C'est génial comme histoire. Finalement, comment, au bout d'une heure et demie, tu t'es décidée? C'est-à-dire que c'est ton entraîneur qui vraiment t'a...
Ouais, ça a été mental, en fait. Ça a été très mental.
Ok.
Dès que je savais dans quoi j'allais m'engager, parce que je savais qu'il fallait que je me remette à l'eau, que je reprenne un peu les entraînements, que je reprenne goût aux entraînements, mais qui n'était pas la même chose que ce que j'avais vécu en tant que nageuse de haut niveau. Mm. C'était une aventure, on me demandait juste de nager longtemps, sans faire une grosse performance, c'était à 3 et tout. Donc pour moi, dans ma tête, j'ai dit, bon, en fait, t'adores l'aventure, lance-toi, t'auras bientôt 40 ans, on va pas te proposer ça tous les jours,
c'est sûr.
Et tous les ans. Mm. Donc vas-y. Et en plus, c'était la période Covid, on ne savait pas dans quoi on allait encore.
Ouais.
Donc, j'étais prête, en fait. Dès que, en fait, j'ai eu un déclic, j'ai échangé avec Stéphane. En fait, j'ai un déclic dans ma tête, ça y est, direct. Je me dis, c'est bon, le défi, dans 2 mois, je m'y mets et je serai prête.
Ouais. Comme si finalement, tu t'es dit, c'est un peu un signe du destin après le Covid, faire un... Une espèce aussi, peut-être, ça faisait longtemps, je crois, que tu nageais plus vraiment.
Ça fait
vraiment.
Plus de 11 ans, ouais.
T'avais arrêté en 2009. Effectivement, ça faisait un bout de temps que tu nageais plus. Tu t'es dit, ça y est, c'est le moment. C'est le destin m'appelle, finalement, sur...
Sur un projet qui me permettait de certes retoucher à ce que je connaissais, la natation, mais dans un autre monde, univers, l'aventure, et en plus en équipe. Donc, on était à 3, on se préparait à 3. Des moments, certes, on était individuellement, puisqu'on a des agendas très différents.
Bien sûr.
Mais c'était vraiment en équipe, que ce soit avec notre équipe qui nous encadrait, les entraîneurs, Anne et son équipe, les personnes qui travaillent avec nous là-bas, au Pérou et en Bolivie. Donc, en fait, pour moi, c'est le côté équipe qui m'a vraiment motivée, parce que je ne me mettais pas non plus des barrières, un objectif très, très haut. On me dit, Malia, prends le temps de te faire plaisir, à reprendre plaisir dans la natation. pour pouvoir kiffer ce défi, pour pouvoir te faire plaisir avec les garçons, quoi, avec Théo et Mathieu. Donc voilà, je me suis dit, j'ai rien à perdre.
Donc, c'est plutôt le côté aventure et aventure humaine. C'est un peu cucu de dire ça, mais c'est vrai.
Non,
quoi.
Mais c'est vrai, c'est complètement ça. C'est une vraie aventure humaine. Ça a été fort, puisqu'en fait, on avait chacun un peu des objectifs dans ce défi. Moi, j'étais sur la partie parcours, comment savoir par où on allait passer pour arriver jusqu'au point de départ, jusqu'à l'arrivée. Théo, il était sur le côté les caméras, les GoPros, ce qu'il fallait filmer et tout ça. Et Mathieu, sur le côté médical et réparation du radeau. En fait, on avait vraiment chacun des objectifs et des rôles sur le radeau. Donc, on travaillait vraiment ensemble à savoir comment se préparer pour quelque chose qu'on ne connaissait pas tous les trois.
Et l'aspect nage, à proprement parler, ouais. Ça t'a pas fait peur? Comme tu disais, t'avais arrêté ta carrière en 2009, et je crois que t'avais arrêté en 2009 un peu dégoûté de la natation.
Oui, complètement.
De te remettre comme ça dans un cycle d'entraînement assez intense et de finalement revivre des choses que t'avais vécues pendant des années dans ta carrière avant, ça t'a pas fait peur?
Non, j'ai pas eu peur. Je savais qu'il fallait que je prenne mon temps. C'est sûr, il faut être, comme on dit, dans la natation ou dans beaucoup de sports, il faut être patient. Donc, je savais que quand j'ai repris au mois de septembre, que je n'allais pas retrouver les sensations que j'avais.
Bien sûr.
Il fallait que je prenne mon temps et Stéphane, il avait bien compris. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, on va commencer tout doucement. J'ai bien compris déjà quand tu as arrêté et tout ça. Et quand tu vas reprendre là, ça ne va pas être pareil. Et en plus, tu ne vas pas nager de la même façon non plus.
Tu nageais plus du tout, pardon, entre.
Non, je nageais plus du tout. Ouais. Non. Et en fait, quand je me suis remise à l'eau, ma tête était prête, mais mon corps n'était pas prêt. Donc, à chaque fois, j'avais la sensation de pouvoir pousser avec ma tête et mes bras ne répondaient pas. Je me dis, bon, on va prendre vraiment du temps. Et donc, les entraînements, je faisais 3 entraînements par semaine. Et j'ai pris tout doucement aussi la condition physique avec de la musculation pour retrouver ensuite les sensations dans l'eau. Et donc, un mois et demi après, j'ai retrouvé les sensations.
Ah, c'est venu assez vite, finalement.
Ouais, un mois et demi après. Et en plus, le deuxième confinement arrivait. Et donc, je me retrouvais un peu bête parce que je me suis dit, le confinement vient 2 mois après mon début. Et si j'arrête pendant plus d'un mois, et encore, on ne sait pas, en fait, je perds tout.
Ouais, c'est ça. Ouais,
je serais reparti à zéro. Enfin. Et en fait, avec Stéphane, on a trouvé une solution. Donc, je suis partie chez lui, en fait. Il habite à Compiègne. Je suis partie chez lui et je me suis entraînée, en fait. Il a trouvé un moyen que je puisse m'entraîner le matin très tôt, avant les horaires scolaires, à la piscine. Donc, j'avais eu à peu près une heure et quart d'entraînement en piscine. Et ensuite, le deuxième jour... c'était dans l'Oise, en fait, dans la rivière.
D'accord.
Dans l'eau à 6 degrés.
Ouais. Ah, c'est bien, au moins, t'as fait une petite prépa déjà.
Ouais, j'étais bien préparée. Donc, c'était un jour piscine et un jour rivière et un jour de repos. Une demi-journée de repos. Donc, c'était bien rodé et moi, ça me convenait. Et en fait, je me suis remise à prendre des bonnes sensations, à ne plus avoir aussi, il faut dire que. Dans la rivière ou dans un lac, on ne voit pas le fond.
Ouais.
Et là, il fallait vaincre un peu ses peurs, parce que moi, ça me faisait un peu peur.
C'est vrai ?
Ouais.
C'est fou ?
J'ai pas la peur, la phobie de ne pas pouvoir mettre la tête dans l'eau, mais j'ai la peur de pas savoir où je mets mes mains, en fait. Et qu'est-ce que je touche, en fait ? C'est un peu ça. Et dès que je touchais une feuille, je criais. Je touchais une algue, je criais. Et donc, le fait de faire des entraînements dans la rivière, ça m'a un peu calmée. Et après, je me suis... C'était rodé. Ça allait. Ça passait mieux. Mais les garçons, ils jouaient beaucoup dessus. Surtout Mathieu, qui aimait ce côté aventure, nature.
Ouais.
À chaque fois, il me lançait des algues pendant que je nageais et tout.
C'est pas
ouais,
sympa.
C'était, ouais. C'était un apprentissage de nage en eau libre, en pleine nature, qui n'est pas pareil qu'en piscine.
Justement, j'allais te demander, est-ce que ça, toi qui as été habituée à nager qu'en piscine, parce que je veux dire, tu faisais de la compétition dans des piscines olympiques, est-ce que ça t'a réconcilié en quelque sorte un peu avec la nage ou est-ce que ça t'a fait apprendre d'autres choses sur toi-même vis-à-vis de la natation, vis-à-vis de la nage?
Oui, en fait, En fait, cette pause m'a fait du bien aussi, mmh. entre la fin de ma carrière et là, la reprise pour Titi Kaka. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait aussi me dire que je peux nager, je peux reprendre goût à la natation, à nager pour le plaisir, mmh. sans me donner d'objectifs précis. Juste par le plaisir d'être en contact avec de l'eau, au plaisir de le partager avec d'autres personnes, même si ce n'est pas du milieu de la natation. Mais le contact est gardé, en fait, avec cet environnement que je connais et que j'ai toujours connu. Donc, je me suis dit, j'ai repris plaisir et amour pour mon sport que j'avais perdu.
Ça t'a donné envie, là, de continuer à te donner d'autres... Oui. Alors, pas forcément défis, mais peut-être objectifs ou...
Oui, complètement. On travaille dessus, justement, avec Anne, qui est devenue ma manageuse. Et on travaille sur mon prochain défi pour août 2023.
D'accord. Donc c'est encore secret.
Des défis. Ouais, on a. Non, c'est pas un secret, mais on a un défi différent. On a Théo qui, tout le monde le sait maintenant, il fait la Santa Fe Coronda au mois de novembre. Mm-hmm. Et moi, ce sera en Guyane chez moi.
D'accord.
Donc c'est pas pareil que les lacs Titicaca. C'est peut-être plus dangereux parce qu'il y a beaucoup plus d'animaux dans
c'est
la rivière.
Ah bah là, dis donc.
et je vais passer par la forêt aussi, côté forêt. Donc j'ai vraiment envie de montrer cette biodiversité de la Guyane, de la beauté de la Guyane que les gens ne connaissent pas. Et que moi, j'ai toujours en fait eu ce gros coup de cœur pour chez moi, parce que ça m'a toujours permis de me ressourcer, en énergie grâce à la forêt.
Bah justement, déjà sur Titi Kaka, il y avait une vraie volonté aussi de d'éco-responsabilité, oui. en tout cas de mettre un coup de projecteur là-dessus. Ouais. Le radeau était éco-conçu. Vous étiez en autonomie totale. Gestion raisonnée des déplacements, réduction des emballages. Enfin, ouais, vraiment, vous étiez vraiment dans cette démarche-là.
Ouais, oui. Mathieu, il a dit, c'est super, super défi, mais on va aller plus loin sur le côté écologie. Et parce qu'en fait, c'est vraiment son environnement, mmh. il travaille dedans. Et donc, on a réfléchi. En fait, c'est vrai que quand on a parlé aux ingénieurs, ils nous ont dit. Mais c'est mieux de repartir avec un radeau construit de A à Z, fait ou non. Mais nous, on veut écologie et on veut recycler. On veut que ce soit quelque chose qui puisse être, certes, solide, éco-conçu. Et je suis sûre que c'est possible. On était sûr que c'était possible de le faire. Donc, on est commencé en fait depuis septembre 2020. Tous les 15 jours, on se retrouvait avec les garçons à s'entraîner dans une base nautique à Compiègne. Mmh. Et les ingénieurs venaient avec nous. Pour un peu être aiguillé sur comment ils vont faire pour éco-concevoir ce radeau. Donc, ça a été une bataille pour eux, mais ils ont super bien réussi ce radeau qu'on a pu voir ou que tout le monde a pu voir sur les images. Il a été génial. On est parti sur des coques, d'un mini kata qui a fait les Jeux Olympiques dans les années 90. Mmh. Ensuite, qui a été recyclé pour une association. Et nous, on a récupéré, on a surtout gardé les coques. Ensuite, on a pris les casiers à l'arrière du radeau qui ont été récupérés par, on va dire, des contreplaqués dans un théâtre à Tours. Mmh. Des bâches de pêcheurs, en fait. Je crois que ce sont des grosses bâches de pêcheurs ou de chasseurs pour faire le coffre à l'arrière du radeau. Ça a été acheté sur le Bon Coin, la coque dans laquelle on dormait.
Ah, c'est fou.
Les matelas sur lesquels de notre partenaire Simons, ça a été éco-conçu parce que c'est à partir de bouteilles plastiques, le matelas. Et on a eu de la chance où on a eu des panneaux solaires qui sont complètement flexibles, très légers, qui ont été mis pour justement recharger le petit moteur électrique mm-hmm. qu'on avait à l'arrière. Parce que à chaque fois, on parle du petit moteur, mais c'est parce qu'une fois que tu t'arrêtes sur le lac, on dérive toute la nuit. Mm-hmm. Donc, on dérive pendant plus de 8 heures. Et donc, ça nous permettait de revenir au point GPS pour repartir nager. Mais voilà, c'est vraiment... Tout a été réfléchi pour que ce soit éco-conçu, même pour la nourriture.
Ouais.
Puisque c'était Juan Herbales qui nous a fait la nourriture. On a très, très bien mangé. Et on a fait en sorte que les sacs, en fait, ce sont des petits sacs recyclables en silicone qu'on a gardés, que j'en ai encore, dans lesquels on a mis la nourriture. Voilà. Quand rien n'a été jeté, on a tout gardé.
Et ça, c'est vraiment important pour toi de mettre l'accent sur l'écologie. Maintenant, est-ce que c'est un combat aussi que tu mènes? Je veux dire, en plus, en tant que nageuse, ancienne nageuse, l'eau, la préservation de l'environnement, on peut imaginer que c'est quelque chose qui tient à
cœur. Ouais. Et déjà, surtout, ben, moi, je fais partie de ce côté Guyane, biodiversité, protection de la forêt. Donc, en fait, j'ai grandi dedans. Et quand, en plus, j'ai eu la chance de pouvoir représenter et parler au nom de certaines associations comme WWF, protection des animaux, protection de la forêt, des rivières et tout, pour moi, ça a été très important. En fait, tous les trois, on s'est retrouvés dedans, dans ce projet, sur le côté handicap avec Théo. C'était montrer que tout est possible. Le côté écologie avec le radeau et le côté aventure. Donc, pour nous, le côté écologie avait vraiment une grande place. Et en plus, c'est aussi ça qui a aussi été la parole auprès de nos partenaires. Parce que ben, le côté écologie, c'est quelque chose où tout le monde a besoin d'avoir sa petite touche et montrer qu'on est capable de faire, certes, des défis à l'autre bout du monde ou même en France, mais en faisant attention à la nature et tout ce qui nous entoure.
Qu'est-ce qui dominait finalement? Alors, j'imagine, tu vas me dire, c'est un mélange de tout ça, mais dans cette aventure-là, c'était le fait de te dépasser, de retrouver ce goût du sport, de mettre en avant l'écosystème et d'avoir un vrai message sur l'écologie. Qu'est-ce qui...
En fait, c'est, pour moi, ça a été toute l'aventure.
Ouais.
Toute l'aventure de cette traversée qui m'a fait vibrer, surtout. En fait, c'est pas le côté de devoir nager. On nageait une heure chacun, en fait, pendant 8 heures par jour, en fait. Une heure chacun pendant 8 heures. Et ça fait que on me demandait pas non plus d'aller dans... J'étais pas essoufflée quand je sortais de l'eau. C'était de pouvoir rester dans ce côté aventure. On vivait sur un radeau. On partageait des moments de rigolade et tout, d'échange. Et en fait, non, c'est vraiment l'aventure à fond qui m'a fait... vraiment me dire, bah oui, je connais quelque chose de différent et que j'ai bien fait de dire oui, en fait. En fait, c'est ce que je recherchais, que j'ai retrouvé pendant l'aventure et pendant la traversée.
Et entre ce que tu avais imaginé, parce que tu t'étais forcément imaginé des choses avant, et la vraie aventure, qu'est-ce qui a été différent?
Les tempêtes.
Ouais.
Ça a été un truc de malade, ces tempêtes. En fait, quand on a été les premiers à faire cette traversée, personne n'était capable. En fait, ils nous disent, oui, c'est dangereux. Oui, on sait que c'est dangereux, mais qu'est-ce qui est dangereux? Et ils ne savaient, ils pouvaient pas nous le dire, que c'était qu'est-ce qui était dangereux.
Okay.
Et en fait, nous, on s'était rendu compte que c'était dangereux, c'était les tempêtes qui pouvaient se passer quand on était au milieu du lac et qu'on n'avait pas de côte où s'abriter ou quoi que ce soit. En fait, ça a été ça. Presque toutes les nuits, on a eu des éclairs, des orages, et au moment où on s'est retrouvé au milieu du lac, parce qu'on n'avait pas le choix pour la traverser, bah, c'est de se retrouver au milieu des vagues qui faisaient 1,50 m à 2 m. Wow. Et on était secoués de partout. Et on s'est retrouvé à dormir avec nos gilets de sauvetage. Donc, ouais, ça a été des moments très durs, très, très durs mentalement. C'était très dur mentalement. Ouais. Et moi, c'était dur physiquement parce que j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes d'hernie discale. Et je sentais toutes les secousses à chaque fois qu'il y avait des vagues qui tapaient sur le radeau, t'étais allongé. Le matin, je souffrais, j'étais sous anti-inflammatoire parce que sinon je pouvais pas me lever. En fait, ça a été vraiment des moments très difficiles, mais on savait que pour une aventure, il faut passer par là. Et pour que ce soit encore plus kiffant à l'arrivée, encore plus.
Bah finalement, tu repars dans d'autres aventures, donc ça n'a pas été trop traumatisant.
Mais j'ai pas de radeau cette fois-ci.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est déjà pas mal.
Est-ce que tu comprends aussi, c'est vrai qu'en ce moment, je trouve, il y a un vrai... on parle beaucoup d'extrême, de performance de l'extrême, de dépassement de soi.
Ouais.
Je trouve que c'est une notion dont on entend beaucoup parler à la télé. Même, je trouve qu'il y a beaucoup de sportifs ou sportives qui sont passés par le cadre classiques, ouais. on va dire, olympiques, ouais. qui ont fait des compétitions. Je pense à Nouria Newman qui faisait du kayak, Laura Marino qui faisait du plongeon et qui maintenant, elles sont toutes passées à des pratiques extrêmes. Est-ce que tu comprends cet engouement-là?
Ben, en fait, on a envie de chercher autre chose. Et des fois, bah, comme moi, on s'est arrêté par dégoût ou parce que bah, y a des choses qui ont fait qu'on a dû changer de voie, bah, je comprends tout à fait. Moi, quand je ne connaissais pas ce côté aventure et j'allais jamais me dire à la fin de ma carrière qu'on allait me proposer ce genre d'aventure. Ouais. Ce genre d'aventure, c'est peut-être Koh-Lanta qu'on peut te proposer et que je n'aurais pas fait.
C'est vrai.
Je trouvais beaucoup plus compliqué de faire Koh-Lanta parce que tous les trucs de stratégie et tout ça, c'est pas mon truc. Je me suis dit, je préfère rester dans une aventure normale. C'est très, très bien. Et oui, je comprends. On cherche autre chose. On cherche l'adrénaline différemment. Mm-hmm. Ça, ce qui fait que on se fait plaisir. On kiffe parce qu'on le partage en plus, parce que Nouria le partage, elle va rarement toute seule à des endroits. Et donc, ça fait que on voit la vie différemment en se mettant dans des choses qui sont dans l'extrême.
Mmh. Et toi, tu l'as vraiment ressenti aussi ?
Oui. Mais en fait, cet engouement que tu as, moi, que j'ai eu à l'arrivée de Titi Kaka, je me suis dit, bah, j'espère vivre x10 encore quand je vais arriver chez moi en Guyane. Je vais passer cette ligne d'arrivée et que ça va être encore x10 puisqu'en plus, ce sera chez moi. Donc oui, en fait, tu recherches un peu cette adrénaline que tu as eue quand tu touchais le mur et que tu voyais que tu étais championne et que tu étais montée sur le podium. Tout ça, tu le recherches, mais différemment et dans un autre monde, dans un autre univers et qui est l'aventure.
C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, quand on a fait de la compétition à un bon niveau, pas forcément à haut niveau, mais en tout cas à un bon niveau, on n'est pas dans cette recherche perpétuelle de ces sensations qui doivent être extraordinaires quand on est en compétition, quand on gagne ou quand on voilà, qu'on a envie de vivre en fait toute sa vie, même quand on arrête sa carrière, et qui nous amène finalement à aller vers ce type d'expérience, d'aventure.
En fait, c'est pas tout le monde qui arrive à le retrouver, même si en passant dans le côté aventure, c'est aussi se challenger tous les jours qui fait que à un moment des fois, tu ne retrouves pas l'adrénaline que tu voudrais, même en arrivant, en finissant, te disant... Mais même moi, quand je suis arrivée à la fin de Titi... Avant l'arrivée de Titi Kaka, j'ai dit à Mathieu, parce que Théo était en train de nager, j'ai dit, Mathieu, c'est la dernière fois que je nage. C'est vrai ? Je nagerai plus. C'est fini. Ouais, je lui ai dit ça. Il me dit, mais attends, tu verras.
À cause de c'est la fatigue qui parlait ou c'était...
Non, c'est que, c'est que pour moi, c'était... C'est pas que la fatigue, c'est que j'avais passé un cap. Pour moi, c'est bon, j'avais trouvé ce que je voulais, j'ai vécu une aventure extraordinaire et pour moi, je voulais passer autre chose. Et je voulais passer même à une autre genre d'aventure.
D'accord.
Faire monter des sommets, trouver un autre type d'adrénaline différent. Et en fait, ça m'a rattrapée. Et après, quand je lui ai dit, en fait... je veux faire de la nage encore, mais en Guyane, il fait « Ah, tu vois, je t'avais dit, hein, il faut jamais dire jamais. » Et donc, voilà, c'est... En fait, cette adrénaline, on l'a trouvée, et on veut encore le vivre, mais à chaque fois différemment. Une fois qu'on a trouvé dans l'extrême, on essaye de le vivre avec des sensations différentes ou avec un environnement, une équipe différente. Et c'est ce qui nous fait aussi kiffer. Parce que là, je ne la prépare pas de la même façon que Titi Kaka. J'ai un peu plus de temps. Je dois beaucoup marcher parce que j'ai une partie marche qui va être extrême aussi. Donc voilà, en fait, je me dis, je n'ai pas de radeau à tracter, certes, mais j'aurai peut-être une partie de natation qui est beaucoup plus longue puisque ça va aller jusqu'à peut-être 50 km de nage en une seule fois. Ah. Et donc, je n'aurai pas de pause de nuit pour pouvoir me dire, demain, je ferai plus. Donc, voilà. En fait, se retrouver des défis différents à chaque fois, ça peut être ça, l'adrénaline, qui peut être différent par rapport à ce qu'on a vécu, nous, en tant que sportif, lambda, olympique, ou voilà. En fait, c'est un peu ça. Je pense que ce soit Nouria ou Laura, ça a été un peu ça, trouver l'adrénaline différente à chaque fois.
Et justement aussi, pour revenir du coup sur ta carrière de nageuse professionnelle, tu te disais, tu as nagé beaucoup, tu as eu une médaille olympique, tu es vice-championne olympique à Athènes en 2004. À la fin, tu expliquais que tu étais dégoûtée effectivement de ton sport. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de l'ordre de la façon dont on quand on est dans le quand on est dans ce circuit du sport de haut niveau qui a peut-être tendance aussi à avoir une à pas laisser beaucoup parler le plaisir finalement. Et il y a aussi cette recherche du plaisir et de la liberté qu'on peut avoir en sortant de ce...
Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je ne retrouvais plus.
Il n'y avait plus de plaisir.
Plus du tout de plaisir, plus d'envie et plus de rage. En fait, il faut avoir ça. C'est très ingrat, la natation. Donc, tu t'entraînes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, en plus, ma course a duré 24 secondes, 53 secondes. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'entraînement pour 53 secondes et tu sais pas si tu vas gagner.
Ouais.
Donc voilà, c'est
tu touches le mur, tu sais pas.
Tu touches le mur, tu sais pas, et tu regardes, soit t'as gagné, t'es super contente, soit t'as perdu, tu dis mais j'ai fait beaucoup de travail et ça a pas payé. Donc ouais, ça a été ça ma décision d'arrêter, c'est que je retrouvais plus du tout de plaisir pour m'entraîner. Mmh. Et donc je me suis dit tu vas plus avoir la rage pour te battre dans ta ligne d'eau, donc il faut arrêter. Donc là, quand je vais m'entraîner, c'est que j'ai envie et ça, je me fais plaisir.
Tu l'as décidé.
Je l'ai décidé. Et si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Ça fait rien. Mmh. Je me laisse du temps. Je sais que ça va être catastrophique au moment quand l'entraîneur va me retrouver, il me dit « t'as pas beaucoup nagé ?» Je fais « ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps et j'ai pas beaucoup d'envie. » Donc ça s'arrête là. C'est pas l'engueulade de l'entraîneur quand tu prépares les jeux. Mais voilà, c'est juste le plaisir. Et je le retrouve aussi parce que je me suis donné une autre façon de retrouver le plaisir, c'est avec la musique.
D'accord.
Donc, beaucoup pendant Titi Kaka. Mathieu, il écoutait des podcasts. Théo, il écoutait beaucoup de rap. Mais moi aussi, j'avais mes écouteurs et j'écoutais beaucoup de musique. C'est ce qui me permettait de me dire, tu nages une heure, mais toutes les 20 minutes, tu es arrêté pour le ravitaillement. Mais tu as de la musique en même temps. Donc, ça change de pouvoir nager avec de la musique. C'est comme les gens qui courent avec la musique.
Ouais.
Là, ça a été pareil. Moi, la musique m'a beaucoup aidée. Il y a eu un moment où j'ai pété un câble pendant la traversée, où mon MP3 ne fonctionnait pas. Et donc, je gueulais. Et les garçons, ils disaient, mais c'est bon, ça va passer et tout. À la prochaine session, tu vas le faire fonctionner. Je fais, ouais, mais ça m'énerve, ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est grâce à ça que je pouvais repartir à nager toutes les 20 minutes parce que j'avais la musique. Et voilà, ça faisait passer le temps. Grâce à ça. Et je me faisais plaisir en même temps. Et en fait, je me suis dit, la musique, ça m'a beaucoup aidée pendant cette traversée et ça m'aide encore pour les entraînements. Parce que des fois, il y a des moments où tu n'as pas envie, tu dis, j'y vais, il fait beau, c'est pas mal, ça serait sympa d'aller s'entraîner. Et je mets la musique et ça passe beaucoup mieux.
C'est quelque chose que tu ne faisais pas du tout avant ?
Ah non, pas du tout. Non, non, puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir la musique. Et il y a des moments, quand j'étais jeune, on mettait les haut-parleurs des nageuses synchro.
Ouais.
Et l'entraîneur mettait un peu de musique. Mais c'est vrai, mais que tu, quand tu arrives au niveau, tu ne peux pas. C'est tellement focalisé sur compter le nombre de coups de bras, les temps de départ, les consignes de l'entraîneur. Non, tu ne peux pas avec la musique. Mais là, ouais, c'est différent. Donc, je prends beaucoup plus de plaisir et je ne me prends pas la tête.
Et est-ce qu'il y a des musiques qui te motivaient particulièrement ? On veut donne-nous un peu ta playlist.
C'était pendant Titi Kaka. J'ai écouté beaucoup Bon Organisé.
Ouais.
J'ai écouté beaucoup Youssoupha. J'ai écouté du Johnny. J'ai écouté Grand Corps Malade. J'ai écouté du France Gall. J'ai écouté Jacques Brel, qui est chanteur préféré de Théo, donc on le mettait souvent.
Ah.
j'ai aussi appris à beaucoup. En fait, ils m'ont fait découvrir de nouvelles musiques. De nouveaux chanteurs, des nouveaux artistes qui sont amis avec Théo, que Théo connaît quand même pas mal de rappeurs et tout ça. Donc, il m'en a fait découvrir et c'est vrai que c'est assez sympa. C'est comme on est dans un côté restreint, dans un petit radeau qui fait 8 mètres sur 2.
Ouais.
Donc, tu vas pas très loin. Donc, tu fais découvrir aux autres. Et pareil, Mathieu nous a fait découvrir des musiques à lui, des musiques qu'il écoutait. Et donc, on s'est partagé un peu les musiques qu'on écoutait. Et c'est assez sympa. Donc, voilà. Théo m'a fait découvrir Eddie DiPreto, c'est ça ?
Eddie DiPreto, ouais.
Voilà, que je connaissais pas. Et pendant toute la préparation, il nous a fait découvrir ça. Isolt, que j'écoutais pas, j'écoute maintenant.
Génial.
Voilà, c'est des artistes... qu'on peut se permettre ce genre de défi d'aventure, d'écouter, de découvrir des nouveaux artistes. Et ça, c'est super.
Mmh.
Tu te dis, tu découvres de nouveaux mondes, tu en plus, culture musicale beaucoup plus large, donc c'est génial.
Mmh.
Ça a été fantastique pendant cette aventure.
Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de mélanger sport et culture, sport et musique, tu vois, alors que finalement... y a beaucoup de liens qui peuvent se faire aussi.
Complètement, complètement.
Et c'est intéressant de voir que tu trouvais aussi la force physique presque.
Oui, c'est ça.
Dans la musique.
Ouais, c'est ça. Ça me redonnait de la force, ça me redonnait l'envie. Quand il y a des moments, on a toujours un peu des petits coups de blues, même si c'est deux minutes. Mm. Mais la musique changeait tout, en fait. Il y en a, bah, il y avait toujours le nageur qui était dans l'eau, qui avait sa musique ou ses podcasts. Et j'avais amené une petite enceinte.
Ouais.
On écoutait aussi la musique sur le radeau. Donc tout le monde, on se changeait les playlists et voilà. Mais ça a été vraiment ce partage sport musique, ouais. Et ça a été cool. Ouais.
Et j'imagine aussi un moyen de s'extraire.
Oui.
Et de penser à autre chose pour
exactement.
Ne pas devenir fou, hein,
ouais,
sur le.
C'est vrai parce qu'on croisait très peu de monde. Il y avait que les pêcheurs.
Vous croisiez quand même un petit peu des gens ?
Ouais, les pêcheurs, on était souvent sur les côtes, puisqu'on s'est dit à un moment des tempêtes, on en a un peu marre.
Ouais.
On va longer les côtes pour se protéger, se mettre à l'abri, pour sauver nos vies et rester en vie. Mmh. Donc, on croisait beaucoup les pêcheurs qui venaient nous voir, puisqu'ils disaient « Mais c'est quoi ce genre d'embarcation ? Ouais. C'est quoi ? C'est pas un bateau, vous êtes sur quoi ?» Et assez souvent, ils voulaient nous acheter notre moteur, acheter nos coques. On dit non, mais non, c'est on les vend pas.
Possible.
Mais c'était ça, on a croisé que les pêcheurs, ouais. Mais c'est des très gentils, adorables.
Ah, bon, ça devait faire du bien aussi, peut-être, de voir des gens.
De voir des gens, d'échanger avec eux. Et c'était assez sympa parce que à chaque fois qu'ils passaient à côté du radeau, ils sifflaient pour prévenir qu'ils passaient.
Ouais.
Ou s'ils voulaient savoir s'il y avait du monde ou quoi que ce soit. Et ils venaient nous voir et ils nous disent pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites. Et souvent, qui nous dit, mais pourquoi vous le faites sur le lac ? Pourquoi vous ne passez pas en bus entre Copacabana, Puno ? Ça se fait en bus, pourquoi vous nagez ?
C'est génial.
En fait, ouais. Donc, non, c'était des belles rencontres, ça a été fantastique.
Est-ce que toi, à titre personnel, cette expérience-là, ça t'a fait changer ou donner d'autres envies pour ta vie professionnelle à toi, c'est-à-dire que quand tu as quitté le milieu du sport de haut niveau, tu es partie dans des entreprises.
Oui, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai pu finir mon école de journalisme. Mm-hmm. Je suis rentrée dans une école privée à Paris et ensuite, j'ai eu la galère un peu du sportif, on appelle ça un peu la petite mort, où j'ai pas trouvé de boulot pendant 2 ans.
D'accord.
Je suis repartie chez ma mère à Toulouse où j'ai ramé, envoyé des CV, j'ai jamais eu de réponse. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance où en 2014, Alliance a ouvert un programme pour recruter des anciens sportifs ou des sportifs en reconversion. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Vas-y, Malia, saute. Donc, j'ai profité de ce moment pour me dire, c'est l'occasion. Donc, j'ai commencé en 2014 avec eux et j'ai arrêté là en début 2022 avec Alliance. Et là, je me suis lancée sur d'autres défis professionnels. C'est surtout sur les conférences, beaucoup. Mm-hmm. Beaucoup plus sur les conférences. J'ai travaillé avec un coach sur des conférences. Donc, j'ai fait un TEDx aussi pour la première fois où j'ai appris un peu plus à m'exprimer, à inspirer aussi. Mm-hmm. C'est qui n'est pas pareil parce que quand tu ne parles pas forcément à un public qui n'est pas sportif, il ne faut pas avoir le même langage.
Bien sûr.
Voilà. Donc, j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé aussi avec les startups. Je suis cofondatrice associée dans une startup qu'on a lancée il y a un an et demi qui s'appelle Sportool, où on diffuse les sports qui ne sont pas diffusés. Mm-hmm. Donc, ça, c'est plutôt très sympa, qui prend très, très bien vie parce qu'il y a une superbe équipe et j'ai des super associés qui font un super boulot parce que pendant la préparation Titi Kaka, ils ont fait en sorte de pas me solliciter, et ça a été très cool. Donc je travaille beaucoup plus avec eux et des nouvelles startups qui me demandent de pouvoir travailler avec eux sur le développement, forcément un peu pour pouvoir se développer, se faire connaître. Et donc voilà, je suis beaucoup plus sur le côté digital sport. Mm-hmm. Et sur les conférences. Ouais.
Et du coup, là, c'est comme je te disais, ces dernières expériences-là, ça t'a donné envie d'ouvrir peut-être à d'autres choses encore ?
Oui. Bon, déjà, ce monde-là que je ne connaissais pas, ça m'a permis de m'ouvrir vers eux. Mm-hmm. Et de nouveaux mondes. Mais moi, je suis toujours curieuse. J'adore découvrir des nouveaux mondes parce que c'est quelque chose qui nous permet de grandir aussi. Et ça, c'est fantastique. De me permettre de me dire aussi, Malia... vas-y, peut-être c'est quelque chose que tu vas kiffer et en fait que tu vas te lancer peut-être à fond dedans. Donc je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et donc à chaque fois, je suis ouverte à de nouvelles propositions.
Ouais, t'as l'impression que sur ces dernières années, finalement, tu te permets d'ouvrir plus de portes que tu ne le faisais avant.
Complètement, ouais, complètement. Et pouvoir aider et accompagner, que ce soit des startups ou autres, pour pouvoir me dire que personnellement, je grandis et professionnellement aussi.
Mmh. Quel est le conseil que tu pourrais donner? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Moi, par exemple, quand j'échange avec des sportifs qui sont encore en carrière, c'est vrai que l'après-carrière fait très peur.
Ouais.
Et que souvent, pour les personnes qui ont eu ce basculement-là, ça a souvent été compliqué, malheureusement. Ouais. Quel est le conseil que toi, tu pourrais donner sur cette transition pour que ça se fasse bien?
Même le préparer, des fois, assez souvent, c'est très compliqué. Comme moi, je l'ai préparé, mais ça a été compliqué.
Ouais.
Mais de beaucoup plus aller vers le monde que tu sais. Enfin, assez souvent, c'est pas qu'on aime ce genre de, en fait, d'environnement, d'entreprise ou voilà. Mais n'hésitez pas à aller frapper aux portes parce que c'est comme ça que vous allez. On trouve sa voie. D'en parler à droite à gauche, ça aussi. Moi, j'ai souvent fait en sorte de garder les cartes de visite parce que c'est souvent quand t'es sportif de haut niveau, tu rencontres beaucoup de sports d'entreprise. Garder les cartes de visite parce que c'est garder le contact avec ces gens que vous avez croisé pendant votre carrière, parce que ces genres de personnes peuvent être des personnes qui peuvent vous aider. Moi, j'ai eu des gens où j'ai croisé pendant ma carrière, c'est eux. Il y a une personne que j'ai croisée pendant ma carrière, il m'a aidé pour trouver mon école de journalisme.
D'accord.
Et que j'ai toujours, et qui est un ami très proche maintenant. Donc voilà, c'est des gens qu'on croise, où ça peut être un coup de cœur amical qui va faire que c'est là que vous allez réussir à marquer l'essai en réussissant votre reconversion. Mmh. La reconversion peut être très compliquée dans tous les cas. Il y en a qui arrêtent parce que problème de blessure, donc ils sont obligés d'arrêter. Il y en a qui arrêtent parce que ils ne trouvent plus l'envie. Il y en a qui arrêtent parce que problème, on va dire, fédéral, parce qu'assez souvent, c'est mauvaise entente et pas choisi par rapport à un autre sportif. Donc, tu te dis, j'arrête. Et ça peut être un dégoût pour le sportif.
Mmh.
Donc, n'hésitez pas à les frapper aux autres, parler à vos amis, à la famille. Information, beaucoup s'informer sur les réseaux sociaux, parce que ça aussi, ça parle beaucoup, on en parle. Et ne pas hésiter à aller auprès des entreprises qui s'intéressent beaucoup plus aux sportifs, parce qu'il y en a beaucoup plus maintenant. Mmh. Avant, ça n'existait beaucoup moins. Il y a peu plus 15-20 ans, ça n'existait pas. Les entreprises, autant d'entreprises qui s'intéressaient aux sportifs.
Mmh.
Donc, n'hésitez pas à les frapper aux portes. Et si vous avez des projets, partagez-les avec eux. Pas vous faire piquer le projet, mais partagez-les avec eux. Mais parce qu'il faut dire que c'est un monde de requins, le monde de l'entreprise aussi. Oui.
Comme le monde du sport.
Comme le monde du sport. Mais il y en a beaucoup qui ne savent, qui se doutent pas que c'est aussi autant de requins là-bas dans le monde de l'entreprise. Donc, il faut faire attention. Mais d'en parler, ça peut vous ouvrir des portes.
Est-ce qu'on peut dire un peu en conclusion que ce que tu vis en ce moment, c'est une sorte peut-être de renaissance où, c'est vrai que les plus jeunes, tu as été médaillée en 2004, les plus jeunes ne te connaissent pas forcément, ils connaissent peut-être plus ton frère Mehdi.
Exactement.
Donc c'est vrai que Malia, on en a peut-être entendu parler, mais en tout cas, ils ne visualisent pas. C'est aussi là, avec ces dernières aventures, une manière de te remettre aussi sur le devant de la scène.
Ouais.
Est-ce que tu le ressens comme ça?
Oui, beaucoup. Il y en a beaucoup où ils connaissaient mon nom, des fois. Mais ils disaient « Ah oui, c'est toi aussi qui as fait la traversée. » Ou des fois, ils ne savaient pas que Théo était accompagné d'eux.
Ouais.
Et donc, après, ils font le lien. Et donc, c'est des moments où, pour moi, ça, je ne me prends pas la tête. Je sais qu'il y en a beaucoup, même s'ils sont dans le milieu du sport, qui ne me connaissent pas, ou qui ne sont pas du milieu du sport, qui ne me connaissent pas. Pour moi, ce n'est pas dérangeant. Et je trouve ça fantastique parce qu'il y en a beaucoup où ils te disent « Mais je t'adore !» Et il y en a beaucoup d'enfants qui m'ont dit ça, mais ils n'étaient pas nés quand j'ai fait ma médaille. Donc, ça te fait un coup de vieux. Un coup de vieux. Donc, tu te dis « Mais tu n'étais pas née quand j'ai eu ma médaille !» Mais en fait, le fait d'avoir toujours eu un peu ce côté de lumière ou avoir fait un peu de télé, d'émission ou là, titi caca, ils disent « Oui, mais non, mais on t'adore quand même !» Même s'ils n'étaient pas nés. Donc, c'est fantastique d'avoir ce retour des jeunes qui, en fait, que tu arrives à leur donner de la force pour la suite. Et ça, c'est fantastique parce qu'il y en a beaucoup, ils recherchent un peu l'image du sportif ou de l'idole pour pouvoir se rebooster et continuer un peu dans leur vie de jeune enfant et de jeune adulte, adolescent. Et ça, c'est fantastique.
Et puis j'imagine aussi pour la jeunesse guyanaise, t'as dû être un modèle incroyable. T'as été la première médaillée olympique guyanaise.
Exact,
c'est fou,
première
c'est
médaillée. Ouais, ça a été très très fort. Donc c'est pour ça que pour moi, ça a été un moment magique et une fierté d'avoir rapporté cette première médaille qui a donné en plus d'autres médailles par la suite. Mmh. Ça, c'est fantastique.
Est-ce que t'aurais, quel serait le message toi qui est important pour toi, que t'as appris de par ta carrière de sportif professionnel, de par tes aventures? Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que t'as envie vraiment profondément de communiquer maintenant à la jeune génération ou même à la moins jeune?
Ce côté inspirant. Ce côté inspirant et l'envie de se dépasser. On a tous des challenges. On a tous des challenges différents. Un jeune qui, pour la première fois, il fait sa première compétition, qui a envie de venir avec sa première médaille. Un étudiant qui passe des examens, c'est réussir ses examens pour entrer dans la vie professionnelle. Une personne en situation de handicap qui marche pour la première fois avec ses prothèses, enfin, qui essaye de marcher avec ses prothèses pour la première fois, peut-être, pourquoi pas, courir, faire un marathon pour la prochaine fois. Donc voilà, on a vraiment tous des challenges. Et je pense que il faut aller chercher au fond de soi pour pouvoir les réussir et ne pas hésiter. Pas hésiter à sortir de sa zone de confort parce que voilà, c'est ce qui nous fait vibrer à l'intérieur et c'est ce qui est magique pour tous.
Une dernière question pour conclure cet épisode. Le podcast s'appelle Championne du Monde. Si tu devais donner ta définition d'une championne, qu'est-ce que tu dirais ?
Nous sommes tous des championnes. Franchement, nous sommes tous des championnes. Les mamans sont des championnes, elles donnent vie. Donc, ce sont des championnes. Nous sommes tous des championnes parce que on va tous... On se dépasse. Voilà, c'est ça le mot. Je donnerais ma définition de championne. C'est quand on se dépasse tous. Et c'est ce qui nous rend championnes, en fait.
Super. Eh ben, merci beaucoup, Malia.
De rien.
Merci de nous avoir partagé... tout ça, ces petits moments de vie, j'espère que ça inspirera beaucoup de personnes, en tout cas, qui auront l'occasion d'écouter cet épisode et de leur donner envie aussi peut-être de se lancer des défis.
Pourquoi pas
forcément de traverser le lac Titicaca.
Pas forcément.
Mais en tout
traverser la piscine, c'est très bien.
Exactement.
Apprendre à nager, par exemple.
Complètement. Donc, je te remercie.
Merci
en tout cas, j'encourage tous les gens qui écoutent cet épisode à suivre tes aventures en Guyane, en 2023 aussi.
Ouais.
Et on te souhaite une très belle continuation.
Merci à toi.
Et merci beaucoup, Malia. Au revoir.
Au revoir.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.